Histoire et gastronomie. La chronique de Jean Vitaud sur Canal Académie.
Du service à la française au service à la russe. L'application du mot service à la table remonte au XIIIe siècle. Auparavant, il était réservé à Dieu, service divin, puis aussi suzerain, service de l'host devenu service militaire. Le mot service recouvre plusieurs acceptions, comme en témoigne déjà au XVIIIe siècle l'article service de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. On dit un service d'or, d'argent, pour tous les ustensiles de la table faits de ce métal, un service de linge pour les linges destinés à la table. On a servi 4 à 5 services pour un certain nombre de plats qu'on sert et auxquels d'autres succèdent. Le service à la française a été codifié en France au XVIIe et XVIIIe siècle, mais c'est l'aboutissement d'une longue tradition. Déjà à Rome, on servait les mets en service composé de plusieurs plats que l'on apportait sur des tables toutes garnies. Le service à la française réglait les dîners et les soupers d'apparat de la noblesse et les banquets officiels. À la cour, seul le roi mangeait seul selon une étiquette rigoureuse. Cette étiquette pesante satisfaisait le roi Louis XIV car elle lui permettait d'asservir la noblesse. Le régent et le roi Louis XV préféraient les petits soupers dans l'intimité. Cependant, on mangeait souvent seul ou à deux sur de petites tables volantes. On servait donc les plats en plusieurs services successifs. On posait sur la table en même temps les mets d'un service qui était habituellement à multiples de 8 et jusqu'à 96, mais on servait souvent le même plat à des endroits éloignés de la table de façon symétrique, d'où le nombre pair de plats. L'ordonnancement classique du menu était composé de 4 à 5 services. Le premier comprenait les hors-d'œuvre, entrées, potages et était placé sur la table avant que les convives soient assis. Le deuxième était celui des relevés de potages, viande et poissons en sauce. Le troisième, les grands entremets salés et les petits entremets sucrés, les rots et les salades. Le quatrième était composé de tourtes de légumes et d'entremets chauds. Le cinquième comprenait les fromages, frais à l'époque, comme le Fontainebleau de nos jours, et les desserts, fruits, compotes, confitures, glaces et sorbets. Suivant les canons de l'époque, on ne se servait pas soi-même, mais on indiquait au valet dédié à son service son choix, qui était servi sur une assiette. Au centre de la table siégeaient surtout d'orfèvrerie et des pièces montées appelées extraordinaires, souvent décorées de façon architecturale, qui ont fait la célébrité du cuisinier Antonin Carême. Les plats d'un même service restaient sur la table de 15 à 30 minutes, puis on apportait le service suivant. La durée d'un repas était donc comparable à celle d'un repas gastronomique de nos jours, et dans les rares menus qui persistent comme le menu tout bœuf du maréchal de Richelieu, car on n'avait alors pas coutume d'écrire les menus mais seulement d'annoncer les plats, l'abondance des mets ne signifie pas un repas pantagruélique, car on ne se servait que d'un ou deux plats par service. Les modèles les plus accomplis du service à la française furent ceux du prince de Bénévent, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, quand il recevait sous l'Empire, 2 fois par semaine, tout ce qui comptait, à la demande de l'empereur Napoléon Ier, qui n'aimait pas rester à table. Les dîners étaient de 40 couverts et la cuisine faite par Antonin Carême était exceptionnelle au dire des contemporains. On a supposé que lors des réceptions à l'hôtel Kaunitz, lors du congrès de Vienne en 1814, le service à la française servait les intérêts de Talleyrand, qui mélangeait allègrement gastronomie et espionnage. Tous les matins, en effet, il descendait en cuisine, réglait les détails du dîner avec Carême et interrogeait tous les valets assurant le service et placés derrière chaque convive. Le prince était au courant de tout, même des conversations privées ou secrètes des congressistes. Les défauts du service à la française n'étaient pas minces, cependant, comme le soulignait le grand cuisinier Urbain Dubois dans la cuisine classique. Si l'apparat était de mise, le risque principal était de manger froid ou au moins tiède, et il fallait un grand nombre de personnel ainsi que de très grandes tables pour poser tous les plats d'un même service, ce qui ne favorisait pas la conversation sauf avec ses voisins immédiats. Le service à la russe remplaça le service à la française au XIXe siècle. Carême, Talleyrand, Louis XVIII et Napoléon III restèrent fidèles au service à la française. Selon André Castelot dans l'Histoire à table, le service à la russe fut introduit en France par l'ambassadeur à Paris du tsar Alexandre Ier, Kourakine, en 1810. Mais le service à la russe ne s'imposa vraiment que sous le Second Empire, où, au début du règne, perdurait encore le service à la française sur les tables officielles impériales. Il n'est pas certain que le service à la russe soit seulement d'origine russe, car la mode s'en était aussi imposée en Angleterre avant d'atteindre la France. La grande bourgeoisie adapta plus rapidement le service à la russe, qui se caractérise par le découpage des viandes, des volailles et des poissons à la cuisine, la détermination d'un menu fixé à l'avance qui est la même pour tous les convives. Le service est effectué par un maître d'hôtel qui présente le plat à chaque convive sur sa gauche, avec cependant un ordre de préséance. Les invités de marque, les dames, puis enfin les autres convives. Les avantages du service à la russe sont ainsi définis par Urbain Dubois. Si la méthode de présenter les mets aux convives, au lieu de les ranger symétriquement sur la table, flatte moins les yeux et les sens, elle a pour résultat évident de faire savourer les mets servis dans les meilleures conditions de calorique et de bonté parfaite, puisqu'ils sont découpés aussitôt cuits et mangés aussitôt servis. Cependant, ces règles n'étaient idéales qu'en cas de table de moyenne importance, jusqu'à 8 ou 12 couverts. On raconte ainsi que dans les grands dîners de la cour d'Angleterre, la reine mangeait toujours froid, car servie la première, elle attendait que tout le monde soit servi pour manger. Le service à la russe s'est imposé jusqu'à nos jours, avec parfois des variantes. Le découpage des grosses pièces de viande, de volaille et de poisson comme le turbot peut être réalisé en sable sur des tables d'office par les maîtres d'hôtel, mais cela tend à disparaître de nos jours. Actuellement, le service est souvent fait à l'assiette qui arrive directement de la cuisine, ou parfois du service de salle, ce qui permet de réaliser des décorations artistiques des mets dans l'assiette. À domicile, on se sert souvent dans le plat sur la table, service moderne à la française. Et pour accélérer le service, on a aussi recours au service à l'anglaise, où les deux convives contigus se servent chacun en même temps dans le plat. Enfin, pour manger à la meilleure température, les associations gastronomiques, contrairement aux convenances habituelles, prescrivent de manger dès que l'on est servi. Les habitudes du service nous renseignent aussi beaucoup sur les mœurs du temps passé. Le service à la française privilégiait la somptuosité de la table et le plaisir des yeux et des sens, mais obligé à manger froid ou tiède, malgré l'invention au XVIIIe siècle des chauffe-plats. Le service à la russe et ses variantes modernes comme le service à l'assiette ont privilégié la gastronomie, car il permet de manger chaud et d'éviter que les sauces ne se figent. Pour que le plaisir soit complet, il apparaît raisonnable de manger dès que l'on est servi, comme le recommandent les associations de gastronomes, comme l'Académie des gastronomes et le Club de Sang, faisant fi des règles habituelles de la convenance, pour un plaisir gustatif optimal.